France Inter.
L'invité au carré aujourd'hui,
Brigitte Senu, paléontologue et professeure émérite au Muséum national d'histoire naturelle.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Lorsque nous sommes arrivés sur l'affleurement où avaient été trouvés les premiers restes de mâchoires, nous avons cherché les fragments manquants, mais ne les avions pas trouvés immédiatement. Certains restes ont été exhumés quelques jours après, d'autres des années suivantes. Mais le même après-midi, alors que nous arpentions les pentes de l'affleurement, Martin découvrit un morceau de fémur, puis un autre fragment. Ce fémur appartenait sans équivoque à un individu bipède. Inutile de décrire l'excitation qui régnait, les ouvriers se sont mis à chanter, les locaux se sont attribués à juste titre cette découverte faite sur leur terre et la fierté de la communauté tuyenne était à son comble. Cette première nuit de l'an 2000 au camp fut agitée à la fois par l'excitation de la trouvaille. Nous avions trouvé des restes fossiles plus anciens que les ardipithèques éthiopiens qu'une majorité de chercheurs considéraient comme nos ancêtres les plus probables en raison de leur âge, 4,2 millions d'années, de leur morphologie et puis parce que cela collait bien avec la fameuse date butoir de 6 millions d'années publiée par les biologistes pour la divergence entre grands singes et hommes. En 2002, nous avons eu la chance de trouver la partie antérieure de la mandibule, dont les fragments avaient été découverts en 2000. Nous avons aussi récolté des dents isolées, puis une phalange distale de pouce, plus d'une dizaine, une quinzaine de restes. L'étude comparative des restes nous a conduit à créer un nouveau genre et une nouvelle espèce pour cette hominidée, Aurorine tugenensis. Aurorine, dans la langue tugen, signifie l'être originel et tugenensis fait référence aux collines tugen où les restes furent récoltés. Aujourd'hui, le matériel connu d'Aurorine tugenensis est composé d'une vingtaine de pièces correspondant à au moins 6 individus. Bonjour Brigitte Senu.
Bonjour Mathieu.
Ce texte est extrait d'un livre « Et le singe se mit debout » que vous avez publié en 2008 chez Albin Michel avec Michel Devillers. Cette découverte d'Aurorine en 2000 au Kenya, c'est un sacré coup d'envoi pour un nouveau millénaire quand même, hein ?
Bien oui, c'était un sacré coup d'envoi pour le nouveau millénaire, effectivement. C'était aussi une grande avancée et c'était aussi des nuits sans sommeil. Des nuits sans sommeil parce qu'on doutait, on s'est dit est-ce que c'est bien là de l'âge, est-ce que c'est bien l'endroit, est-ce que c'est bien le... Et pendant des jours, on était à la fois surexcités et terriblement ennuyés, ouais. J'allais dire, entre ouais. guillemets.
On va revenir sur cette aventure incroyable avec ce fossile donc, de 6 millions d'années. On peut dire que c'est la grande découverte de votre vie quand même, Aurorine, non ?
Alors, c'est une découverte, mais pour moi qui suis paléontologue, quand j'ai trouvé les premiers restes de primates fossiles en Afrique du Sud, dans les mines de diamants, c'était un grand moment aussi.
Parce que c'était la première fois ?
Non, c'était pas la première fois. On l'a trouvé en Namibie, mais aussi vieux, c'était la première fois. Et ça, je pense qu'en paléontologie, toute découverte est importante.
Ouais.
Mais c'est sûr que médiatiquement parlant, trouver un reste de singe plus qu'un reste d'hominidé, ça n'a pas du tout la même valeur. Mais pour moi, il y a des découvertes qui sont plus importantes au niveau scientifique, en tout cas pour l'avancée des sciences. Celle-là, elle a été grande aussi pour l'avancée de la science, mais elle a été montée très vite parce que c'était sur les terres du président, qui était Daniel Arap Moi. Donc tout de suite, le président nous a convoqué, il nous a fait rechercher par sa police.
Donc au Kenya. Hein.
Au Kenya, exactement. Et c'est lui qui a demandé à organiser une conférence de presse. Donc ça a donné en plus une aura très forte. Moi, je suis toujours un peu limite.
Vous n'aimez pas ça ?
C'est pas que j'aime pas ça, mais je trouve qu'on fait remonter quelquefois des découvertes qui ne mériteraient pas d'être remontées.
Oui, enfin, là, elle méritait quand même largement
oui,
de l'être.
Oui, mais vous savez, pour pouvoir travailler calmement, Il faut qu'on soit dépassionné de tout ça. Et je trouvais que c'était important. Il y a un journaliste qui était venu me voir dans mon bureau à mon retour, qui me dit oh, « Vous deviez grimper au rideau. Ben, » Je dis « Monsieur, il n'y a pas de rideau. » Et puis c'est une découverte parmi d'autres. Et certaines sont plus importantes et d'autres sont moins importantes.
Enfin, il y a quand même un avant et après Aurorine dans votre parcours, non ?
Oui, certes. Mais ça ne m'empêche pas de travailler sur plein d'autres choses. Et aujourd'hui,
oui,
je travaille sur des CNJ, par exemple, et j'en suis ravie.
Sur des quoi, pardon ?
Des CNJ.
Qu'est-ce que c'est ?
Des rats-trompes. C'est des petites bêtes qui ne sont pas vraiment des insectivores, qui ne sont pas vraiment des rongeurs, qui sont un peu à cheval. Ces petites bêtes sauteuses qu'on ne trouve qu'en Afrique. Et là, je m'éclate entre 40 millions d'années et puis 5 millions d'années environ.
Alors, c'est pour ça qu'avant d'entamer cette émission, je vous ai présenté, on en discutait ensemble comme paléo-anthropologue. Et, mais vous m'avez engueulé en me disant, mais ça ne va pas, je ne suis pas paléo-anthropologue.
Non.
Je suis paléontologue, s'il vous plaît, Mathieu Vidard.
Excusez-moi, Mathieu, je vous ai engueulé gentiment. On met en exergue ces disciplines, mais ça, on le doit aux Américains. Parce que quand je faisais mes études, et quand j'ai fait mes études, on ne parlait pas de paléanthropologie, on parlait de paléontologie vertébrée et paléontologie humaine.
Ouais.
Et je suis diplômée de paléontologie des vertébrés et de paléontologie humaine. Et puis, dans les années 1930, un chercheur américain, le Dr. Erdlichka, trouvait qu'il n'y avait pas assez d'argent dans la paléontologie. Donc il a fait passer ça sur l'anthropologie ou la médecine, où il y avait beaucoup plus d'argent. Et c'est devenu de la paléanthropologie. Mais le problème de tout cela, c'est que ça a amené dans la discipline des gens qui n'ont pas la formation du temps, comme on l'avait en paléontologie. Nous, en France, c'était lié aux sciences de la Terre. Moi, j'ai fait une maîtrise de géologie-recherche pour faire de la paléontologie. Ce qui fait qu'on avait un regard sur le temps qui était important. Et les animaux, l'homme est un animal, évoluait au cours de ce temps. Et à partir du moment où on l'a mis dans les anthropologues, ça a perdu ce côté très naturaliste. Je vais dire, le nombre de papiers que je vois mal, où les fossiles sont mal identifiés et cependant publiés dans des grandes revues, c'est une catastrophe. L'anatomie comparée disparaît aujourd'hui. Et ce qui est dommage, c'est notre base de travail. En fait.
Donc vous êtes bien paléontologue, tout comme l'était d'ailleurs Yves Coppens. Hein.
Absolument, je crois qu'on avait la même formation.
Exactement, et on va reparler parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre parcours.
Absolument.
À quand remonte votre attachement pour les roches et les fossiles, Brigitte Senu ?
Ah, très longtemps, j'étais toute gamine. On habitait la banlieue parisienne et il y avait dans le petit jardin de la maison, il y avait plein de petits restes de fossiles, de mollusques qui sortaient du temps où la mer était sur Paris.
Ouais.
Et puis, je devais avoir une dizaine d'années et j'allais au jardin des plantes. Et quand on traversait le jardin des plantes, il y avait plein de petits cérites, de ces petits mollusques là, qui sortaient de terre. Et puis, j'étais passionnée par tout ce qui était le passé, les cailloux et tout. Et je me suis inscrite au club Jean Perrin du Palais de la Découverte.
Ah oui.
Et je passais mes week-ends, très souvent soit au palais, soit sur le terrain, aller chercher des fossiles dans les carrières de la région parisienne.
Et pourquoi ces cailloux vous ont autant touché, petite, à votre avis ? Comment vous expliquez ça ?
Aucune
Parce que
idée,
plein d'enfants auraient pu passer à côté de ces fossiles sans même les voir. Hein.
Mais ça peut être une couleur, ça peut être quelque chose. Et puis j'ai surtout, je pense, des instituteurs qui étaient très naturalistes aussi. On allait chercher des têtards dans les mares du côté du bois de Vincennes. Ça s'éduque, ça aussi. Et puis, moi, on m'a toujours dit, quand j'étais bébé, je ne voulais pas dormir dans la maison, je voulais dormir dehors. C'était une catastrophe, ça faisait des crises tous les jours. J'ai toujours eu envie d'être dehors, en fait.
C'est incroyable quand même, parce que ça, c'est une vocation quand même. Hein.
Je ne la rejette pas. Je pense que c'était une véritable vocation. Et puis,
parce que vous en avez passé des nuits dehors, hein, au cours de vos recherches sur le terrain.
Et encore aujourd'hui, je peux vous dire que j'en pense encore un certain nombre aujourd'hui. Mais c'est vrai que, après, je voulais faire de la paléontologie, mais je ne pensais pas qu'en tant que femme, j'y arriverais.
Il y avait quand même ce mur-là qui était réel.
C'était pas un mur, hein, c'était un
sommet.
C'était un apic, j'allais dire. C'était très dur. Et bizarrement, même quand j'ai fait mes études, papa voulait que je fasse des études d'avocate, maman de pharmacienne. Et parce que je voulais arrêter mes études après le bac. Mais j'ai eu le bac trop tôt. Donc, j'étais pas majeure, puisqu'à l'époque, on n'était pas majeure à 18 ans. Donc, du coup, mes parents m'ont dit, tu pars pas. Moi, je voulais partir en Afrique enseigner.
Ah, déjà ?
Oui, j'étais passionnée de ça.
Vous aviez l'Afrique dans le sang, déjà, à ce moment-là ?
Oui, et ça, je crois que c'est un peu, après avoir visité la maison du Dr. Schweitzer à Kaisersberg, j'étais vraiment...
En Alsace ?
Oui, en Alsace, bien sûr.
Et il y a toute son histoire, évidemment, africaine qui a raconté.
Et j'ai lu ses livres, bien sûr. Donc l'Afrique, c'était quelque chose, la terra incognita, d'une certaine manière, mais qui me fascinait. Et quand mes parents m'ont dit, tu pars pas, tu fais des études, puis... Eux avaient vécu la guerre, n'avaient pas pu faire d'études, ils auraient voulu en faire, ils n'ont pas pu. Du coup, je dis, écoutez, d'accord, mais ce sera la géologie. Mais je ne pensais pas qu'il y a des moments qui auraient été si difficiles que ce que j'ai vécu, parce que finalement, j'ai fait un parcours de géologue de recherche. Donc, j'ai fait de la géologie appliquée, j'ai fait de la pétrographie, de la cristallographie, de la paléontologie, de la géologie appliquée. Mmh. Et puis voilà. Et puis, malheureusement, quand j'ai eu mon DEA, le prof de... Bon, pas mon DEA, ma maîtrise. Le prof de géologie appliquée voulait me garder en thèse. Mais le terrain, c'était l'Arabie saoudite. Et je dis, mais une femme en Arabie saoudite, dans les années 70, c'était pas gagné quand même. Il me dit, ah, mais vous n'irez pas sur le terrain, vous resterez ici, travailler sur les résultats rapportés par vos collègues. Mmh. Et là, je lui ai dit, mais attendez, la géologie, c'est sur le terrain. Et je suis allée voir le prof de paléontologie, ça marchait très bien en paléontologie, c'est comme ça que la paléontologie est rentrée dans ma vie par tous les ports.
Et c'est comme ça que vous avez rencontré Yves Coppens aussi?
Absolument, puisque c'est quand j'étais étudiante à Jussieu qu'il était venu faire une conférence aux étudiants, et il est venu nous parler de Lucie, de l'évolution, et il a eu le malheur de nous parler de la locomotion, mais très rapidement, et je suis allée le voir après, je dis, mais enfin, ces gens-là, ils n'ont pas de squelette. Il m'a dit, ça vous intéresse? Ben oui, ben venez me voir.
Et ben voilà.
Et c'est comme ça que...
Un instant comme ça, ça suffit à tracer toute la ligne d'un parcours.
C'est des opportunités et j'avoue que je n'ai même pas réfléchi, j'ai sauté dedans.
On va écouter Yves Coppens, extrait d'un documentaire qui vous était consacré, La Dame aux fossiles, réalisé en 2012, il est pas mal ce titre, en 2012 par Philippe M. Yves Coppens lors d'une conférence à la suite de la découverte du crâne d'un grand singe en Ouganda, par vous, Brigitte Senut.
Vous savez, quand on trouve une dent, on est les plus heureux des paléontologues. Alors, quand on trouve une mâchoire, on est les plus heureux des paléontologues. Et quand on trouve un crâne, alors c'est tout à fait extraordinaire. Je connais bien Brigitte. Je l'ai connue depuis... Elle était toute petite. Elle préparait sa première thèse, et puis après sa deuxième thèse. Puis maintenant, elle est professeure. Et je connais bien Martin. J'ai même connu Martin avant Brigitte. Alors, avoir des gens qui s'en vont sur le terrain, trouvent, décrivent et publient, ce n'est pas si fréquent.
Yves Coppens qui parle de vous, Brigitte Senut. Qui est Martin?
Martin, c'est mon compagnon de vie et de travail. Voilà. Et on s'est rencontrés grâce à Coppens.
Ouais. Je vous sens très émue de l'entendre, d'entendre
ça. Oui, parce que pour moi, c'était une grande perte. J'ai été très triste et j'ai été très triste après des gens qui ont voulu s'approprier ce qu'il était alors qu'ils ne le connaissaient pas si bien. Ça m'a beaucoup touchée, beaucoup choquée. Et c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'amitié, beaucoup de respect. Il a quand même dirigé deux de mes thèses. Et on travaille ensemble. On a passé 47 ans de vie scientifique commune.
Ouais,
on ne peut pas l'oublier comme ça. Moi, c'est quelqu'un qui a marqué ma carrière et qui a marqué la paléontologie. Parce que la plupart des paléontologues en poste, aujourd'hui, de ma génération, ou celle précédente, ou un peu après, ils ont tous eu besoin d'Yves à un moment ou à un autre.
Et il a marqué les Français aussi, parce que la découverte de Lucie, ça a eu un tel retentissement, et il a été aussi un excellent vulgarisateur de la science.
Non seulement ça, mais s'il n'avait pas été là, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, parce qu'il a su, promouvoir la science, il a su lui donner sa valorisation auprès du grand public et auprès des collègues. Nous sommes censés être des sciences molle, entre guillemets, je supporte pas ce terme.
Sciences humaines.
Ce qu'on disait à l'époque, sciences molles, il y avait les sciences dures et les sciences molles. Eh bien, lui, il a donné ses lettres de noblesse aux certaines sciences molles, dirons-nous. Et ça, on peut le féliciter et le remercier pour ça.
Et d'ailleurs, Lucie, le fossile de Lucie, Australopithèque, 3,2 millions d'années.
Oui.
Est-ce que vous l'avez touché de vos mains, Brigitte Senut, ce fossile?
Un peu, puisqu'il me l'a confié pour ma première thèse.
Mais c'est incroyable quand même, non?
Mais oui. Mais pour moi, c'était un fossile comme un autre. Alors, les gens, ils sont en transe quand ils parlent de Lucie, mais moi, ça fait partie d'un matériel comme un autre.
Parce que c'est une rockstar, Lucie, en fait.
Oui,
Et Yves Coppens y a contribué quand même aussi.
Oui, non, mais justement, il a fait beaucoup de choses pour Lucie, ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais ceci étant, pour moi, Lucie, c'était pas un être exceptionnel pour moi. Ça a été un fossile qui apportait son intérêt scientifique au débat scientifique.
Ouais. Et ça... Mais quand même, il n'y a pas un moment où votre cœur battait un peu plus vite en vous disant « Mon Dieu, mais j'ai quand même 3,2 millions d'années d'histoire de l'humanité là devant moi. »
Aurorine, c'était autre chose parce que c'était toute communauté qui était autour, qui a été... Puis je l'ai vécu en direct sur le terrain. Mais tous les fossiles que je trouve, il y en a qui sont plus excitants que d'autres, mais moi je ne suis pas en transe, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Et Martin, votre compagnon non plus ?
Vous avez le même caractère. Alors lui, il a eu plus de cauchemars que moi, parce qu'il s'est demandé si ça avait été bien en place, pas en place, etc. Donc ça nous a fait travailler beaucoup plus le côté géologique et stratigraphique.
Vous parlez de quoi ? D'aurorine, en l'occurrence ?
D'aurorine, oui.
On va présenter aux auditeurs et aux auditrices aurorine, donc ce fossile de 6 millions d'années que vous avez découvert au Kenya, donc en l'an 2000, car Brigitte Senu, vous êtes aujourd'hui notre invitée au carré.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Alors, on est sur le gisement de Capcheberek, qui a livré la première phalange appartenant de la main, appartenant à aurorine. C'est un gisement qui a environ 5,7 millions d'années et que nous avons commencé à prospecter en 2000, en fait. Voilà.
Quand c'est dégagé comme ça, on voit toutes les couches magnifiquement dégagées. On peut vraiment lire les géologies. C'est pas la peine de gratter pour voir les choses. C'est à l'air libre. Et c'est pour ça, c'est pour un géologue, un paléontologue, c'est vraiment un gisement exceptionnel. C'est très agréable. Et chaque fois que je viens ici, la pression diminue un peu, je me repose un peu. C'est vraiment magnifique.
La voix de Martin Pickford, donc votre compagnon et collègue, Brigitte Senu, dans ce documentaire « La Dame aux fossiles » en 2012. Aurorine, le Kenya, 6 millions d'années d'histoire humaine, finalement, avec ce fossile quand même exceptionnel. Comment d'abord est-ce qu'on choisit le terrain qui va vous emmener un jour par hasard, quand même ? Ou y a-t-il vraiment du hasard sur cette découverte?
Le terrain des collines Tugen, c'est une histoire un peu bizarre. Martin a fait sa thèse sur... Il a fait toute la cartographie de bassin de Baringo pour sa thèse. Et il avait donc répertorié toute une série de niveaux. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus, puisque moi, je travaillais pour ma thèse sur des niveaux, sur des fossiles de gisements où il avait fait la géologie. J'avais besoin d'informations géologiques et Coppens m'avait mis en relation avec lui. C'était assez fou. Et donc, on avait l'intention de retourner là parce qu'on savait qu'il y avait une séquence intéressante pour l'histoire des faunes africaines et des hominidés, éventuellement. Quoique c'était vieux, c'était plus vieux que ce qu'à l'époque on pensait être ancêtre. Donc, on a tenté le coup.
Donc, vous êtes dit, on va faire une mission au Kenya.
Voilà, c'est comme ça. Et on a relancé la mission en 98 avec l'aide de Coppens, d'ailleurs c'est le Collège de France,
oui.
Parce qu'au début on n'arrivait pas à avoir d'argent, c'était chasse gardée, bon voilà. Et grâce à Coppens on a pu aller sur les gisements, et 2 ans après, on va sur... ce qui nous est arrivé, c'est qu'on arrivait d'Ouganda, puisqu'on faisait les missions couplées pour éviter d'avoir trop de frais de voyage,
oui.
Et on a perdu un roulement à billes, en haut des collines Tugen, enfin juste avant de traverser la frontière, du côté Ouganda. Donc vous descendez pas 3000 mètres de dénivelé, c'est un peu chaud quand même pour la voiture et pour nous. Donc on est resté réparé. Pendant ce temps-là, le chef des ouvriers, qui avait fait monter le camp, a dit « moi j'attends pas ». Il avait ras-le-bol de nous attendre, il est parti prospecter sur un petit coin. Et le seul coin où Martin n'avait pas travaillé, c'était un tout petit gisement. Et il a remonté une petite vallée, un petit chenal, et il a trouvé une mandibule. Et quand on est arrivé, alors je lui dis « mais Kiptalam, t'as trouvé quelque chose ?» Il me dit « ouf ». Et il me donne un petit sac en papier, là. Je me rappellerai toujours, style sac de boulanger en papier craft marron, là. Et il me dit « j'ai que ça ». Mais je lui dis, mais c'est du bonhomme ? Il dit, oui, je sais.
C'est incroyable, cette histoire.
Et donc, tout de suite, enfin, après déjeuner, on s'est d'abord posé, puis après, on est allé sur le terrain. C'est comme ça qu'on a commencé à découvrir les autres restes.
Donc, c'est le seul endroit qui n'avait pas été sélectionné par
quasiment,
votre
compagnon. Quasiment, parce que c'était un petit endroit qui était un peu limite. Donc, il avait été sur les belles coupes. Alors là, la coupe, elle n'est pas terrible, là, sur le gisement de Capsomine.
Donc, vous voyez cette mandibule. Hein.
Oui.
Vous dites, c'est une mandibule humaine.
Oui, de bonhomme. Hein. C'était ma première réaction, mais c'était clair.
Mais qu'est-ce que vous saviez de plus ? Pas grand-chose.
Non, rien. Sauf que le gisement, il était connu par la dent qui avait été trouvée par Martin en 1974, bien sûr. Et cette dent, elle avait été placée dans des hominidés, puis elle a été placée dans l'ancêtre des chimpanzés, puis elle a été placée chez
Elle a beaucoup voyagé.
Elle a beaucoup voyagé systématiquement.
Ouais.
Et Coppens, c'était un des rares à dire que c'était vraiment cet âge. C'est aussi un peu ce qui a guidé notre choix pour, pour ces gisements de
donc,
cette région.
Donc, ces gisements de 6 millions d'années.
Parce que là, c'est 6 millions d'années,
exactement,
c'est bien daté.
Ouais.
On a des datations radiométriques classiques au potassium-argon, l'argon-argon. On a du paléomagnétisme et on a la biochronologie.
Ouais.
Et le biomagnétisme, le paléomagnétisme, on l'a fait avec nos collègues japonais de Matsue. Et ça a confirmé toutes les premières dates qui avaient été faites bien avant.
Donc, vous réparez la voiture.
Et
vous dites, il faut y aller quand même maintenant
sur
ce site, parce qu'il n'y a peut-être pas qu'une mandibule.
Oui, c'est ça, absolument. Et puis on a trouvé donc, les restes, Martin a trouvé le premier morceau de fémur, puis on a trouvé le reste du fémur, puis avec Dominique Gomery, un de mes anciens étudiants, qui est maintenant directeur de recherche, on a trouvé, j'ai trouvé un bout d'humérus, et en creusant dessous, il a trouvé un deuxième fémur. Donc c'était en place en plus, donc c'est une belle découverte, parce qu'en général, la plupart des découvertes dans ces niveaux anciens, c'est des récoltes de surface.
Ouais. Dans le texte que je lisais de votre livre, vous décrivez quand même une excitation, hein. Il y a une joie quand même.
J'avais du post-crânien, j'étais super contente.
Franchement, du post-crânien.
Oui, c'est ça. Bien sûr, on est excité, c'est un grand moment, mais il faut savoir ne pas passer de l'excitation à quelque chose qui est complètement irréaliste.
Mais du coup, vous décidez de vous installer vraiment sur ce site. Ça dure combien de temps, en fait? Parce que vous parlez de 98.
On va faire plusieurs missions. Alors, là, depuis 98, ça a été trouvé en 2000, déjà.
Ça
a mis 2 ans à trouver le matériel. Et puis, on a prospecté autour. Donc, on a trouvé 3 autres gisements. On a reprospecté le gisement de la découverte de la première dent de 1974, qui n'a pas livré d'autre chose, a trouvé des très belles pièces d'hippopotame.
74, c'est la découverte de Lucie aussi. Hein.
Oui.
C'est la même année. Hein.
Oui, mais alors c'est pour ça que la dent de Lucchino n'a pas fait la carrière de Lucie, parce qu'une dent contre un squelette, il n'y a pas photo.
C'est
hein.
Ça
ne tient pas à la distance.
Donc l'Éthiopienne contre la dent du Kenya.
Oui, alors c'est, bien sûr, il y a aussi ce problème-là, puis ce n'était pas le même contexte non plus. Et du coup, on a trouvé 4 gisements, finalement, avec des restes d'hominidés.
Alors, quand on parle de la découverte d'Aurorine, donc 6 millions d'années, Brigitte Senu, alors on parle de quoi exactement? À quoi ressemble Aurorine? Est-ce que c'est un seul individu ou plusieurs? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on essaie de dresser un peu ce portrait robot là?
D'abord, sur 4 gisements, c'est probablement 4 individus différents. Mais sur le gisement principal, qui est le gisement de Capsomine, on a des dents d'adultes, on a des dents de jeunes, donc on sait qu'il y a au moins 2 individus.
Ouais.
Et il y en a qui sont excentrés par rapport à la ravine principale. Donc on sait qu'on a une ravine principale où d'ailleurs on est arrivé à recoller des dents supérieures, on a une mâchoire supérieure maintenant en partie remontée. Il y a une ravine annexe, où il y avait une dent isolée. Et à ma connaissance, les dents, elles ne sautent pas les collines. Donc il y a forcément au moins 2 individus, si ce n'est plus.
Ouais.
Donc, on arrive à 6 minimum pour tous les gisements.
Donc, on a plusieurs aurorines, on pourrait dire les choses comme ça
Oui, parce que les dents sont assez proches les unes des autres. Et puis, alors, moi, ce qui m'a beaucoup plus excitée, mais moins excitant peut-être pour vous, c'est qu'on a trouvé des fragments de dents, qui ne ressemblent pas du tout à aurorine, bien qu'il y en ait une que nous ayons mise dès le départ dans l'hypodigme d'aurorine, parce que...
L'hypodigme, qu'est-ce que c'est?
C'est la totalité du matériel rapporté à l'espèce. Et on avait cette dent qui était un peu bizarre, un peu trop grosse. On dit que c'est peut-être de la variation, la mise dedans. Jusqu'à ce qu'on va trouver quelques années après, ce qui est une autre dent. Alors là, c'était une incisive la première fois, une incisive supérieure. Et la deuxième fois, c'était un fragment de molaire. Mais cette molaire portait des morphologies typiques des gorilles.
Ouais.
Et d'un seul coup, ça a fait tilt. L'incisive qui était un peu trop grande, qui était bizarre, etc., c'était pas d'aurorine. C'était une forme de gorille qu'on a publiée comme gorilliforme, parce que c'est la seule connue à cette époque. Et sur un gisement proche, mais beaucoup plus ancien, de 10 millions et demi d'années, on a trouvé 12 millions et demi d'années, il faut pas que je... 12 millions et demi. On a trouvé une dent qui ressemble à un chimpanzé. Et c'est une dent qui était en place. Donc, il n'y a pas de risque, elle est datée au-dessus et au-dessous.
Ouais.
Et alors, du coup, on ne sait pas. On a une dent d'un côté, 2 dents de l'autre. Mais les 2 fragments de capsumine, c'est clairement quelque chose qui rapproche du gorille.
Aurorine, donc, vous nommez une nouvelle espèce.
Une nouvelle espèce.
Vous créez une nouvelle espèce.
Un nouveau genre et une nouvelle espèce.
Et cette nouvelle espèce, quelle est sa particularité anatomique, alors?
Sa particularité anatomique, c'est d'abord, c'est un bipède, mais pas un bipède comme les australopithèques, donc c'est très différent. Au niveau des dents, ce ne sont pas des dents d'australopithèques. Les molaires sont relativement petite par rapport à celle des Australopithèques.
Ouais.
Et puis, il y a cette bipédie un peu bizarre, quoi, qui n'est pas, qui ressemble pas à celle qu'on connaît habituellement.
Pourquoi elle est un peu bizarre, hein?
Ben, elle ressemble, c'est un être bipède, le fémur l'a montré. Et là, je suis contente parce que tous les gens qui ont travaillé sur ce matériel ont montré que c'était bipède. Donc, bien qu'on était très, très critiqués à l'époque.
C'est ça, parce qu'à l'époque, on se disait qu'on pouvait pas marcher sur nos deux jambes il y a 6 millions d'années, c'est
exactement. Ça. Exactement. Et on a été, là, je peux vous dire, j'ai pris un sacré nombre de plombs, là, à l'époque. Ouais. Finalement, ça a été confirmé par des travaux complètement extérieurs, et ça, ça fait plaisir, quelque part. Non, alors, cette bipédie, il y a quelque chose de très intéressant en son fémur, c'est que la tête fémorale est orientée vers l'avant, ce qu'on appelle l'antéversion. La tête, la colle vers l'avant. C'est ce qu'on va trouver chez l'homme, etc. Alors que chez Lucie, c'est légèrement vers l'arrière. Donc, il y a déjà, au niveau de la stature, quelque chose qui est un petit peu différent.
Ouais.
Et au niveau de ses dents, même problème. Les dents de Lucie sont assez grosses, les molaires sont assez grosses, alors que chez Aurorine, elles sont petites. Et si vous imaginez, comme ça a été dit par un certain nombre d'auteurs, que Aurorine était un australopithèque, il faudrait admettre que Aurorine avait des dents petites, avec une bipédie qui ressemblait plus à celle de l'homme, avec cette antéversion, qui devrait passer, donner naissance à des australopithèques qui ont une tête plutôt vers l'arrière, avec des grosses dents, pour revenir à un schéma plus moderne. Et moi, les yo-yo comme ça, ça peut arriver sur un cas, mais sur deux chaînes fonctionnelles aussi importantes, j'ai un doute, mais peut-être que j'ai tort. Et ça, c'est toujours pas réglé. Tout le monde est d'accord pour dire qu'Aurine était bipède, mais c'est le placement dans la phylogénie. Et c'est là où il y a plein d'autres concepts qui rentrent en jeu, qui font que, quelquefois, on est plus pour une idée qu'une autre.
Alors, quand on dit Aurine, on pense à un prénom féminin, mais c'était un individu de sexe féminin ou pas?
Ah, on peut pas le dire.
On ne le sait pas.
Non, on ne le sait pas du tout.
Ouais.
Ce qui nous a sauvés pour l'étude de la bipédie et du fémur, c'est que le fémur, il est au même stade biologique que Lucie. C'est un jeune adulte.
Ouais.
La tête fémorale est
adulte.
Voilà, c'est le même âge que Lucie. Alors après, est-ce que c'est une jeune femelle ou un jeune mâle? Mais par contre, l'autre fémur est extrêmement massif, et ça, je suis pratiquement sûr que c'est un mâle.
Un dernier mot, avant de parler de vos autres travaux sur d'autres fossiles. Dans quel environnement vivait justement Aurorine, au Kenya?
Alors, c'est intéressant.
Il y a 6 millions d'années.
À 6 millions d'années, c'était au bord d'un lac. On a plein de données là-dessus. C'était un milieu beaucoup plus... Enfin, pour les gens qui connaissent la région aujourd'hui, qui est un peu désertique, c'était plus végété. Il y avait certainement plus de forêts au bord du lac qu'il n'y en a aujourd'hui.
Ouais.
Et surtout, les collines qui étaient autour étaient plus basses, puisque la tectonique du Pliocène n'avait pas encore joué. Donc, collines plus basses, une frange forestière plus marquée, et on a trouvé notamment beaucoup de plantes fossiles, beaucoup de feuilles fossiles. Et l'étude qui a été faite par Marion Banford en Afrique du Sud, qui est spécialiste des plantes, a montré que c'était une forêt sans pervirante sèche. Alors, ça veut dire que c'est une forêt sèche, qui est verte toute l'année. Mais au sein de cette forêt, il y avait des endroits beaucoup plus humides. Et là, on a trouvé des feuilles de près de 20 cm de long avec des pointes d'égouttures très fortes. Ça veut dire qu'il y avait un égouttement permanent.
Donc, c'est une bipédie des forêts.
Absolument.
Aurorine.
Et en plus, il y avait des geysers, puisqu'on a trouvé énormément de bancs calcaires qu'on retrouve un peu aujourd'hui dans le lac Bogoré.
Alors que même chose, avant, on attribuait la bipédie plutôt à des milieux de savane.
Bien sûr.
Ouais. Donc là aussi, c'est ça, vous avez été élevé avec cette idée-là, quoi.
Ah oui. Non, mais là, c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'on était très critiqués, parce que ça ne rentrait pas dans l'establishment, si je peux dire, de ce qu'on reconnaissait dans notre domaine.
Mais c'est aussi ça le propre de la science, c'est de bousculer aussi les certitudes. Hein. Et là, vous les avez bien bousculer quand même, avec vos équipes. Brigitte Senu, vous êtes notre invitée au carré cet après-midi.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Cet animal est très intéressant car en étudiant son squelette, parce que souvent on parle de dents, de crâne, parce que c'est les meilleures pièces, c'est les pièces qui se conservent le mieux, on a très peu de choses sur son squelette. Mais c'est là le plus important, l'enjeu pour comprendre l'apparition de l'homme, l'apparition de la caractéristique de l'homme, c'est-à-dire marcher debout. Et dans cet hominoïde, même si on est quand même à 20 millions d'années, on voit au niveau de ses vertèbres lombaires qu'il y a des adaptations. Ces adaptations, c'est le prémisse de ce que l'on va trouver dans la colonne vertébrale des hominidés, donc des êtres qui marchent debout. Donc il y a 20 millions d'années déjà, il y a des choses qui commencent à annoncer l'homme et les australopithèques.
Brigitte Senu, vous êtes notre invitée au carré. À l'instant, on entendait Dominique Gomery, c'est un compagnon de route aussi pour vous.
Ah oui, oui.
Qui a participé à la découverte d'Aurorine, d'ailleurs, à vos côtés. Là, quand il parle, justement, c'était un extrait de France Culture, le Salon Noir en 2009, quand il parle d'un fossile de 20 millions d'années, il nous parle de quoi exactement, alors ?
Ah, il parle de fossiles de grands singes, en tout cas d'hominoïdes, puisque le grand singe tel que qu'on connaît aujourd'hui, il est arrivé un petit peu plus tard. Il faut voir que dans notre origine, il y a la grande superfamille des hominoïdes, qui est représentée aujourd'hui par les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans et les gibbons, et l'homme. Et que dans cette super famille, il y a un moment des familles qui se sont isolées. Mmh. Donc on n'est pas complètement libéré de nos ancêtres hominoïdes au sens large. Et il parle d'une vertèbre ancienne, oui. Voilà, avant la bipédie justement humaine, avant les adaptations au grimper, etc.
Oui. Alors ça c'était en 2009, mais en 2011, 2 ans plus tard, vous allez faire une autre découverte majeure avec un crâne que vous allez nommer Ugandapithecus. Et là on n'est pas dans la lignée humaine, on est dans la lignée des singes, justement.
Alors, on est peut-être dans la lignée humaine, on ne sait pas, puisque c'est un hominoïde. Alors, c'est Martin qui a découvert les premières traces, pour le rendre à César ce qui lui appartient.
Martin Pickford, oui, compagnon. Ouais.
Il a trouvé les premiers restes. Et Ugandapithèque, moi, j'avais créé l'espèce en 2000. Avec Martin, avec Dominique et un collègue japonais, Yutaka Kunematsu.
Et comme son nom l'indique, c'est un fossile de l'Ouganda ?
De l'Ouganda. Ça vient des gisements de Napak, les grands volcans fossiles du nord-est de l'Ouganda, dans le Karamoja. Et ce fossile, c'est extraordinaire parce qu'il est quasi complet, sauf que la boîte crânienne, j'ai plein de morceaux qui n'ont aucun contact les uns avec les autres, mais la face est magnifique, le palais est magnifique. J'ai un bout de foramen occipital et de crête sagittale. Donc c'est quelque chose d'intéressant et ça fait partie de ces hominoïdes très anciens avant la grande divergence des familles de type moderne.
Vous le datez à combien alors ?
On est à 20 millions d'années.
20 millions d'années ?
Oui, mais c'est rien ça dans notre histoire.
Oui, bah, évidemment, c'est presque un jeune homme, enfin pas tout à fait, mais pourquoi les grands singes sont essentiels pour comprendre ensuite l'humain, justement ?
Parce que là, on ne sait pas si c'est un grand singe, c'est sous stricto, je vous dis, c'est une pièce qui fait partie des grandes superfamilles. Et ce qui est intéressant d'étudier chez les grands singes, c'est de voir comment ils ont dérivé dans leur lignée à partir d'ancêtres très lointain. Et même chose pour nous. Si à un moment vous avez un flot commun d'hominoïdes, et puis après il y a deux lignées. Donc tout ce qu'on peut connaître sur une des lignées va nous aider pour connaître l'autre lignée. Et l'étude de ces grands singes fossiles, hominoïdes fossiles, est fondamentale parce que des caractères qu'on estimait qu'on être primitifs, je parlais du prognatisme des chimpanzés par exemple. Ça, c'est arrivé très tard.
Prognatisme,
c'est l'avancée de la mâchoire, des mâchoires vers l'avant. Nous, on a une face plate, les chimpanzés ont une face beaucoup plus projetée, comme les gorilles. Les orang-outans, c'est une autre histoire. Bon. Et en fait, quand on regarde les fossiles dans le Miocène, c'est-à-dire entre 20 millions d'années et 5,5 millions d'années, on n'a pas ce type de face. Il n'y en a qu'une, c'est chez l'Afropithèque. Et elle n'est pas aussi projetée que chez les autres. Donc ça, ce sont des caractères beaucoup plus récents. Et ce qui a été considéré comme primitif pendant très longtemps, en fait, ce sont des caractères dérivés de l'autre lignée. Et ça, c'est important à savoir. Et chez le grand singe de Napak, donc de 20 millions d'années, chez notre Ugandapithèque, il y a des caractères qui ont été décrits chez des pièces européennes ou eurasiatiques, disant que c'est dérivé de l'Eurasie. Bah, pas du tout, elles sont là il y a 20 millions d'années. Mmh. Elles sont juste conservées et elles vont s'exprimer plus tard. C'est pour ça que c'est fondamentalement important de connaître à la fois les primates modernes, mais également les primates du passé. Parce qu'en évitant les uns comme les autres, on se coupe d'une information fondamentale.
Et vous aimez faire des liens, justement ?
Faire des liens, puis surtout trouver la variation, la variabilité. Qu'est-ce qui fait l'évolution ? C'est la variabilité, c'est la variation. Et le jour où... Parce que quand je vois publier de nouvelles espèces sur une ou deux pièces qui sont comparées à quelques pièces seulement... À long terme, surtout dans ce qui concerne l'humain, on a souvent peu de choses. On a un crâne, on a une mandibule.
Donc vous trouvez qu'on va un peu vite en besogne ?
C'est pas qu'on va un peu vite en besogne, mais souvent on se coupe d'informations qu'on a, qui seraient peut-être disponibles dans certains des domaines.
Brigitte Senu, est-ce que la bipédie, ça reste le propre de l'humain ?
Ah bah pour moi, c'est fondamental.
Jamais on découvrira un grand singe bipède ?
Ah bah ça, vous me posez des questions impertinentes, là. je ne peux pas vous le dire.
Non, mais...
Il y a des volontés de croire que, mais pour l'instant, tous les grands singes actuels, il n'y en a aucun qui soit bipède de manière permanente.
Oui.
Chez le fossile, bah, écoutez, tout ce qu'on a en post-crânien actuellement, ce n'est pas du bipède permanent.
Oui. Alors, le bipède permanent le plus ancien, c'est Aurorine ?
Alors, ça dépend. Si vous considérez Toumaï comme un bipède...
7 millions d'années.
Si, il a 7 millions d'années, puisque c'est une découverte de surface. Donc là, on ne réglera jamais ce problème tant qu'il n'y aura pas quelque chose de correct au niveau stratigraphique.
Ouais.
Mais une récolte de surface, a priori, on ne peut pas savoir. Donc là, c'est un problème. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire... Alors, évidemment, je suis peut-être mal passée pour le dire, puisque je fais partie des découvreurs.
Bien sûr.
Mais la donnée claire aujourd'hui en place en stratigraphie, c'est Aurorine.
Oui. Donc 6 millions d'années pour l'instant.
Dans l'état actuel de nos connaissances.
Dans l'état actuel des connaissances, absolument. Brigitte Senu, vous êtes à la retraite du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Pas de ce mot.
Mais ça ne veut absolument rien dire pour vous, tout comme pour Martin Pickford, parce que vous retournez sur le terrain en permanence.
Ah oui, bah écoutez, le terrain, c'est la seule école pour nous, et puis le seul défi. Parce qu'on peut toujours faire des réétudes en laboratoire avec beaucoup de mathématiques, on fait beaucoup de choses très dérivé au niveau de la mathématique aujourd'hui, très, très, très difficile, très, très ponctuel, très ciblé. Mais le nouveau fossile, on ne le trouve que sur le terrain. Et ce que je trouve triste, c'est qu'en musée, très souvent après, on n'a plus le contexte. Or, ce contexte, il vous marque quelque part. On a besoin de ce contexte.
L'environnement.
Non seulement l'environnement, mais la manière dont ça a été récolté. Quel type, s'il y avait tel minéral autour, pas de minéral autour. Il y a tout un tas de choses que l'on voit sur le terrain.
Et vous êtes sur quel terrain aujourd'hui ? Toujours en Afrique ?
Oui, bien sûr. Toujours en Ouganda. Au Kenya, j'espère y retourner bientôt. Là,
qu'est-ce que vous fouillez ? Qu'est-ce que vous cherchez ?
Alors, en Ouganda, on n'a pas arrêté depuis 1985. On a fêté même les 40 ans de la mission l'année dernière, oui, c'était une grande aventure. Eh bien, on trouve tous les ans des primates. Et chaque année, on trouve même des espèces nouvelles. Alors, pas forcément de primates, mais on trouve des espèces nouvelles.
Aussi anciens que ceux dont on vient d'années. De parler, 20 millions d'années.
20 millions d'années, oui, ce sont les mêmes gisements.
Ouais. Ouais.
Et alors, dans l'Ouest, on a trouvé il y a une dizaine d'années à peu près, on a trouvé des niveaux qui sont importants envers 7-8 millions d'années. Donc, on espérait trouver des choses intéressantes. Alors, on a trouvé effectivement des faunes qui ont permis de caler stratigraphiquement. Donc, on sait que c'est une zone clé pour comprendre l'évolution des primates et notamment des hominidés. Le seul souci, c'est que ces gisements, ils sont à la frontière congolaise. Et actuellement, ça ne nous est pas recommandé, parce que les gisements sont à quelques kilomètres de la frontière et il y a vraiment des problèmes.
Donc les conditions géopolitiques sont pas toujours en faveur de la paléontologie.
Moi, je fais attention à l'équipe, même si c'est Dominique qui dirige l'équipe avec mon collègue Loïc Segalen de l'Université de Rouen, on a pris la décision de ne pas faire de bêtises. Et puis je continue en Namibie et j'ai rejoint l'équipe de Dominique en Afrique du Sud.
Ouais. Donc vous n'arrêtez pas.
Mais écoutez, tant que Dieu me prête vie et cerveau, j'essaye de continuer.
Vous aimeriez faire une autre grande découverte comme Aurorine ou franchement vous en fichez un peu maintenant ?
Alors c'est un peu partagé, une grande découverte ça apporte que des problèmes. Les années qui ont suivi, j'ai eu des crédits coupés, j'ai eu plein de plombs, des mauvais articles de journaux. Enfin, ça a été dur à vivre à un moment et parce que ça allait trop loin. Enfin, un fossile ne mérite pas. Ce qui se passe autour, voilà, c'est ça. Et puis c'est toutes les jalousies exacerbées, tout. Enfin, ça a été dur. Et puis j'ai même rencontré des journalistes qui n'étaient pas très corrects.
Ouais.
Et ça m'a un peu coupé de ce milieu aussi. D'un autre côté, moi, je trouve que toute découverte est importante pour la science.
Et pas seulement de l'humain.
Il faut savoir la lire. Parce que ce qu'il y a autour de l'humain, c'est ce qui permet de comprendre comment l'humain est là.
Merci beaucoup Brigitte Senu d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Je renvoie vers ce livre et le singe mis debout dans lequel vous racontez l'épopée Aurorine entre autres. C'était en 2008, il faudrait réécrire l'histoire d'ailleurs aujourd'hui.
Il y a plein de choses à écrire aujourd'hui.
Il y a plein de choses nouvelles à réécrire que vous avez publié donc chez Albin Michel avec Michel de Villers. Merci infiniment d'être venu à ce micro. Merci à Emma Bouvier qui a préparé ce dossier, Raphaël Rousseau à la technique, à Mazir Amadaïn Guest qui réalisait cette émission.